France Culture.
Carl, des vacs. Allez, des vacs, on chante.
Ce n'est pas le hurlement d'un loup, ni l'aboiement d'un chien, mais le chant hybride d'un animal hybride. 40% chien, 60% loup. Un animal issu d'une sélection génétique acharnée pour que nous puissions tenir en laisse un morceau de sauvage. Mais une fois installés en appartement, la nature de ces animaux est revenue et s'est retournée contre leur maître. Décrétés inadaptés, ingérables, indressables, ces dits chiens-loups auraient été euthanasiés s'ils n'avaient pas été recueillis ici, dans le refuge de Marjorie, où ils passeront néanmoins leur vie derrière les grilles d'un enclos. Les animaux sauvages nous manquent. Ils vivent la nuit, nous fuient le jour. Ils surgissent, parfois nous traversent, puis s'évanouissent devant les phares de nos voitures. Nous ne voyons plus que ceux que nous avons achetés, dressés et enfermés. Nous ne les voyons plus que dans nos salons, nos prés clôturés, derrière les murs que nous leur imposons. Nous avons des animaux de compagnie, mais nous avons perdu la compagnie des animaux. Alors sans les cages, les chaînes, les grillages, les clôtures, les barrières, les barreaux et les barbelés, sans les filets, les laisses, les mors, les harnais, les brides et les muselières, que deviendraient ces animaux avec nous et nous avec eux? Comment fonder une nouvelle communauté avec les autres animaux? Le monde après le spécisme. En finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross. Épisode 4, Libération animale.
Comment ça se fait que t'as appris à... Enfin, alors... t'as chanté avec eux?
Ah bah parce que je me suis dit, tiens, ils chantent, je vais chanter avec eux. Moi, j'ai suivi une formation d'assistante vétérinaire, donc quand j'avais 18 ans à peu près, quoi, vraiment plus jeune.
Marjorie, fondatrice d'un sanctuaire.
J'ai exercé dans des grosses structures vétérinaires. Et donc à 29 ans, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'aller travailler avec les animaux sauvages. C'est comme ça que j'ai travaillé en parc zoologique. Donc je suis arrivée dans un parc qui était très vieillissant, avec les mentalités aussi qui étaient très vieillissantes. Pour le coup, il n'y avait pas de femmes. Ils n'en avaient jamais eu. Donc à part la secrétaire, femme soigneur, ils ne connaissaient pas. Il y avait tout type d'espèces, hein. Vous aviez des primates, des fauves, des plus petits félins, un hippopotame, enfin un peu de tout, des gros herbivores, il y avait pas mal d'espèces. Mais c'était encore très vieillot, donc très cage en fait. Ça reste des animaux sauvages.
Qu'est-ce qu'ils gardent de sauvage?
Déjà, on peut pas avoir de contact avec eux, hein, quand même. Même si on est proche, même si on est dans les loges, on a quelque chose de privilégié que les autres n'ont pas parce qu'on est près d'eux. Mais après, ça reste quand même des animaux qui sont dangereux. On rentre pas dans les parcs avec les animaux. Il y a une sécurité à faire tous les matins, que sa clôture électrique fonctionne bien. Et après, on peut sortir ces animaux. Et après, on part sur un nettoyage comme on ferait à n'importe quel autre animal et un nourrissage. Donc il y avait le début où vraiment avec toutes ces choses qui étaient un peu à l'ancienne et où il y avait plein de techniques qui, je pense, en fin de compte, pour eux, c'était normal. Par exemple, pour les grands félins, s'il veut pas aller dehors, on sort le tuyau d'arrosage. Donc vous avez des animaux, quand vous le nettoyez vos loges, vous comprenez pas pourquoi quand ils voient un karcher arriver, il y a plus personne, quoi. La flotte, c'est le traumatisme. Mais parce que en fait, on les pousse avec l'eau. Le soir, tu veux pas rentrer? Ah, mais moi, je finis ma journée. Donc, en fait, je prends le tuyau et puis dans l'autre sens, j'arrose. Et je te visse pleine tête. Et puis, comme ça, tu vas rentrer. Ça, moi, pour moi, c'est de la maltraitance. C'est pas quelque chose qu'on fait. Il y a des parcs qui font naître pour le public, parce que c'est joli de voir des bébés. Faut savoir, par exemple, les lions, ça se reproduit très bien. C'est comme un chat. Okay, il n'y a pas de problème de reproduction chez le lion. Si vous voyez des parcs qui ont des portées tous les ans de lions, les petits, ils vont pas aller jusqu'à grandir. Donc si vous voulez, il y a des animaux, s'il y a de la reproduction, ils font juste leur été ou leur printemps, vous voyez, hop, c'est mignon, on fait les photos, puis après c'est terminé. Hein. C'est des euthanasies, quoi.
Et vous, vous avez vu des animaux morts dans le zoo où vous travaillez ?
Ouais. En fait, on n'avait pas assez de place. Normalement, il y a des, par exemple, des congélateurs, des choses pour stocker les animaux avant équarissage. Là-bas, l'organisation était un peu moyenne à ce niveau-là. Donc, quand il y avait de la place, c'est des animaux qui vont dans les congélateurs. Et quand il n'y avait pas de place, eh ben, c'est des animaux qui étaient posés à côté des congélateurs. Donc, et puis souvent, bah, ils oubliaient l'écarissage, de les appeler. Ce qui faisait que vous pouvez garder des animaux, du coup, plusieurs jours, et donc à côté des congèles, quand c'était des spécimens trop gros, par exemple, qui n'en rentraient pas, quoi. Ouais, et puis parce que, bah, de toute façon, même si on n'aurait pas voulu voir, la problématique qu'on avait, c'est que là où on mangeait, il y avait les cadavres à côté. Donc voilà, on était obligés d'escalader, limite. Moi, j'ai connu un moment où on devait passer par-dessus pour aller manger. Mais c'est vrai que dans les parcs, nous, on ne devait pas dire s'ils étaient morts. Ça m'avait fait rigoler avec un collègue à moi. Parce que, je ne sais plus, un jour, il avait dû se faire reprendre parce que quelqu'un avait dû lui demander « Ah bah, qu'est-ce qu'il est où ?» Je ne sais pas, le primate, il avait dit « Ah bah, il est parti, il est mort. » Et là, ah non, ça, on ne dit pas ça. Il a été transféré dans un autre parc. Et en fait, il ne faut jamais dire qu'il est mort.
So, my name is Will Kimlicka. I'm a professor of political philosophy at Queen's University.
Je m'appelle Will Kimlicka, je suis professeur de philosophie politique au Canada. Avec ma femme Sue Donaldson, nous avons écrit un livre, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux. Dans ce livre, nous avons tenté de montrer l'urgence qu'il y a à politiser la question animale. Nous devons sortir d'une pensée fondée sur nos relations individuelles, intimes, de soins ou de propriété avec les animaux. Au contraire, nous sommes convaincus qu'il faut réfléchir à la manière dont les humains et les animaux sont pris dans des rapports de pouvoir et de gouvernance. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Ça fait partie des enjeux de cet ouvrage, montrer une image positive de ce qu'un avenir avec les animaux pourrait être, plutôt qu'une seule critique du présent. Bien sûr, les défenseurs des droits des animaux et ceux qui le théorisent ont déjà fait un formidable travail en identifiant ce qui ne va pas dans notre rapport aux animaux. Mais ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait peu de récits ou d'images de ce que pourrait être un avenir juste et équitable avec les animaux. Si nous prenons un peu de recul et que nous nous demandons pourquoi les humains ont fait tant de mal aux animaux, une partie de la réponse, c'est que nous avons eu un comportement très utilitariste avec eux. Nous les considérons comme des ressources naturelles à notre service que nous pouvons exploiter et opprimer. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce que nous, humains, nous sommes profondément curieux des animaux et nous voulons très souvent les voir, les toucher, les connaître, les découvrir, tout savoir d'eux. Il y a des gens qui croient qu'en tant qu'humains, ils ont le droit d'aller à l'autre bout du monde, voir les animaux sauvages comme les zèbres, les rhinocéros, etc. Je crois que c'est très important pour réfléchir à une société post-spéciste de se débarrasser d'une approche utilitariste des animaux. Et je crois aussi que ça impliquerait que les humains renoncent à leur désir insatiable de voir les animaux. C'est une question importante, mais difficile. Et pour moi, les zoos, c'est vraiment le paradigme de cette curiosité. C'est ce désir profond qu'ont tous les humains de voir les animaux, mais au détriment absolu de ceux qui sont retenus captifs derrière des barreaux. Les zoos n'ont pas leur place dans une société post-spéciste. Je pense que c'est vrai aussi de certaines formes de tourisme, de certains documentaires sur la vie sauvage. Il faut qu'on accepte qu'on n'a pas toujours le droit d'avoir les animaux présents pour nous, à notre disposition. Et je crois que la question que l'on doit se poser, c'est ce que veut l'animal lui-même.
On me mettait des avertissements tout le temps. C'est-à-dire, moi, un jour, j'ai mangé un avertissement parce que j'avais pas sorti une de mes tigresses le dimanche. C'est un jour d'ouverture au public. Ma tigresse, elle voulait pas aller dehors. C'était des nouveaux enclos, elle avait pas envie de sortir, donc bah elle sort pas, en fait. Finalité, elle n'est pas allée dehors puisqu'elle en a décidé autrement et que je vais pas me battre avec un tigre. Et donc, le lendemain matin, lundi matin, convocation, voilà, vous avez un avertissement. Genre, celui-là, il est génial. Je lui dis, comment ça, j'ai un avertissement, je vois pas ce que j'ai fait. Ah bah, vous n'avez pas sorti la tigresse. Alors, ça, c'est une blague. Non, vous n'avez pas sorti la tigresse, vous n'avez pas fait votre travail. Bah, alors, je lui dis, là, vous pourrez me dire, Qu'est-ce que j'aurais dû faire alors ? Bah, votre travail, vous êtes soigneur, vous devez sortir les animaux, on est ouvert au public. Je lui dis, mais elle a décidé de pas sortir, elle a peur, elle a pas envie. Donc à un moment, c'est pas grave, le public il va faire 100. Et puis voilà. Et ben non, vous auriez dû faire votre travail. Donc du coup, je les regarde et puis je dis, bah, c'est quoi que j'aurais dû faire ? C'est prendre le tuyau d'eau, c'est prendre un bâton, c'est la taper, c'est l'acheter dehors. Bah, t'aurais dû faire ton travail. D'accord, bah, je dis, bah, ça, c'est pas mon travail. Et je dis, si vous me foutez l'avertissement, je vais dire ce qu'on m'a demandé de faire pour que je puisse faire mon travail. Donc celui-ci, il a jamais été finalisé. Il a jamais été finalisé parce qu'ils se sont dit que là, j'allais pas lâcher. Je suis partie par un arrêt, j'ai dit que j'arrêtais tout. Pour moi, j'étais dépressive, je pense. Hein. Je me suis pas fait diagnostiquer, mais bon, à un moment, je vivais très mal les choses. On rentre, on parle que de ça, on pleure ou alors on est tout le temps énervé, en colère. C'est que ça va pas, quoi.
Vous m'aviez parlé d'une panthère qui était liée aussi à votre départ. Qu'est-ce qui s'était passé ?
Elle était compliquée, c'est celle avec qui on avait créé un lien, elle et moi. Donc c'est vrai qu'elle pouvait être très calme, comme elle pouvait avoir un sacré caractère quand elle aimait pas les gens, mais elle avait des très bonnes raisons. Et donc elle a abîmé son nouvel enclos quand elle a été relâchée. Elle était un peu virulente. Du coup, bah après, elle a vécu pendant très longtemps dans une cage. On va dire que c'était un chenil à chien, quoi. Voilà. Et donc moi, j'espérais pouvoir l'aider et l'embarquer avec moi, en fait. Donc j'avais essayé de négocier ça un peu à mon départ. Je m'en vais, je vous laisse, vous êtes tranquille, mais je pars avec elle. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, elle est partie dans un autre parc, je ne sais pas trop ce qu'elle devient aujourd'hui. Moi, maintenant, j'ai décidé de faire mon travail à moi, de la manière dont je veux le faire, comme j'ai envie, avec mes pensées. J'ai attendu un peu, hein, j'ai fait des dépannages. Et puis après, j'ai créé ma propre structure, en fait, mon refuge, quoi. Mon but, c'était de faire du sauvetage. Et donc, pas de reproduction, pas d'exploitation, vraiment juste des animaux qui, bah, pour ce que je vais appeler sauvage, bah, du coup, c'est des animaux qui ont subi l'exploitation et qui, du coup, ne peuvent pas retourner dans la nature. Je visais les cirques parce que c'est des animaux qui ont été toute leur vie en captivité, qui ne peuvent pas retourner dans la nature et qui, du coup, vont rester en captivité, mais dans l'idéal, des structures qui ne les exploitent plus. En fait, voilà, où ils sont tranquilles, ils finissent leur jour comme ça, et on les embête plus, quoi.
Clara, non. Néné, tu fais gaffe qu'elle passe pas, Clara. Clara, non.
Parce qu'elle fugue.
Elle part trop loin.
Donc notre association a s'est battu, donc on a organisé des dizaines de manifestations devant des cirques avec animaux. On a essayé de contribuer à cette bataille à la fois politique et culturelle, d'arriver à un stade où aujourd'hui, quand on demande « Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des animaux sauvages dans les cirques ?» En fait, on a les deux tiers de la population qui disent « Non, ce n'est pas normal. »
Amandine Saint-Vicence, cofondatrice de l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis.
Pour moi, c'est ça, gagner une bataille culturelle. Et donc, à force d'écrire aux mairies, aux ministères, à force de manifester, il y a des travaux ministériels auxquels on a participé et qui ont donné lieu donc à l'adoption d'une loi en 2021 qui prévoit donc l'interdiction de la présentation d'animaux sauvages dans le cadre de spectacles itinérants. Cette loi, c'est une première étape et la différence fondamentale qu'il y a entre les cirques et les zoos, je le résumerai en un seul mot, c'est le lobby. Donc pour illustrer ça, je vais donner un exemple très simple. Emmanuel Macron, quand il a été élu président, l'une des premières mesures qu'il a faites, c'est de répondre à une demande historique des zoos, de baisser la TVA. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez une place pour aller dans un zoo, le taux TVA est de 5,5, donc produit de première nécessité, comme si vous achetez une baguette de pain, alors qu'il me semble que ça devrait être 19,6, hein, c'est-à-dire tous les produits de divertissement. Quand on interroge les gens dans la rue, en fait, on se rend compte que le discours des zoos est extrêmement assimilé, c'est-à-dire que c'est pour conserver les espèces, que c'est très important, que finalement, s'ils n'étaient pas derrière des barreaux, ils seraient tués, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces animaux sauvages, la Fédération des vétérinaires européens le dit, les scientifiques le disent, ils ont le même patrimoine génétique que leurs congénères en liberté. C'est-à-dire que, j'insiste, on est sur des animaux sauvages, au regard de la réglementation, au regard de la biologie. C'est-à-dire qu'ils ont le même patrimoine, ce n'est pas de la domestication, hein, puisque, juste je le précise, la domestication, c'est la sélection, la reproduction d'animaux sur des milliers de générations pour les rendre, on va dire, dépendants aux humains, bon, pour le faire simple. Et donc, il y a eu un groupe de travail sur les zoos en 2019, et c'est le seul groupe de travail qui n'a donné lieu à aucun changement réglementaire.
Allez-y.
Je m'appelle Caroline Dubois, on est au refuge Groingroing, qui est un refuge qui accueille des animaux dits de ferme. On est en Sarthe et le refuge existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Le refuge, il existe parce qu'il y a eu plusieurs personnes à l'origine qui a voulu monter un endroit pour que les animaux puissent vivre une vie sympa et sans exploitation. C'est la volonté de différentes personnes et puis après plein de gens qui nous ont rejoints.
C'est électrifié, hein, il y a 7000 volts, donc vraiment ça fait très très mal. Ça ne vous tuera pas ce que c'est fait pour, mais vraiment ça...
On est là pour montrer aux gens qu'on peut vivre autrement avec les animaux. Évidemment, on ne va pas pouvoir sauver tous les animaux du monde. C'est des millions d'animaux qui partent à l'abattoir tous les jours. On ne peut pas les sauver, ceux-là, ce n'est pas possible. En revanche, si on peut montrer aux gens qu'on peut avoir une autre relation aux animaux et une relation apaisée, sans exploitation, ça fait réfléchir les gens et on espère que ça plante une graine pour qu'ils remettent en cause leur façon de consommer et de voir les animaux.
Bon bah voilà le troupeau, il en manque, je pense qu'il y en a qui sont derrière, mais ou alors dans les abris de l'autre côté.
Est-ce que là aussi ce sont des animaux d'élevage ?
La ponette qui est devant toi, elle a une histoire particulière et moi-même qui étais dans les chevaux, je ne connaissais pas cette pratique. Donc en fait, il y a des propriétaires de la jument qui l'a mise au monde, qui avait cette jument et d'autres juments pour que lui faire faire des bébés, pour que la mère ait du lait. Une fois que la mère a du lait, ils vont aller louer ou vendre la jument qui a du lait à des écuries de course qui ont eux-mêmes perdu des mamans et dont les bébés ont une valeur monétaire très importante. Et ils laissaient mourir le premier bébé de faim et de soif dans le box. Donc on a été la récup et on l'a biberonné nuit et jour pendant des mois, des semaines. Et on lui a mis une ponette pour lui apprendre, pour qu'elle ait une mère de substitution. Et voilà, donc elle va bien, elle a juste des problèmes de comportement, comme tout animal sevré trop tôt ou séparé de sa mère trop tôt. Elle a pas les distances de sécurité, quoi. Elle pense que t'es un cheval, grosso modo. Quand des fois je vais dans un centre équestre, parce que j'ai encore des liens avec des gens qui montent à cheval, souvent je trouve que c'est de la maltraitance. Et puis des fois, de temps en temps, je crève d'envie de monter à cheval. Voilà, mais c'est vraiment très ambivalent. Mais jamais plus de ma vie, je remettrais les fesses sur un cheval, évidemment, quoi. En fait, moi j'aimais l'équitation comme les gens aiment la moto.
L'équitation, c'est juste de la domination. Alors je sais que je vais faire hurler tout le monde, et moi la première, parce que j'ai un rapport ambivalent à ça, puisqu'en fait, arrêter l'équitation pour des raisons éthiques, en creux, même si vous ne le pensez pas, et parce que c'est vos raisons éthiques à vous, et que vous ne dites pas aux gens que ce qu'ils font est mal, les gens ne peuvent entendre que, en fait, tu juges ce que je fais, tu juges que c'est mal, alors que moi j'aime les chevaux et je suis sûre de ne pas leur faire de mal. Les chevaux sont conditionnés depuis qu'ils sont petits à répondre à ce qu'on veut d'eux. Donc, par exemple, on va aller débourrer un cheval. Vous pouvez pas lui monter sur le dos comme ça, hein, du jour au lendemain, parce que sinon, il est trop fort pour vous. Il va vous envoyer en l'air et voilà. Mais par contre, vous allez lui apprendre par soumission à accepter la selle, la sangle, vous, votre poids. Par exemple, quand on apprend à un cheval que quand on serre les mollets, c'est pour aller en avant. S'il ne le fait pas au départ, il ne le fait pas en départ. Sauf que, du coup, vous donnez un coup de cravache. Donc si vous ne répondez pas à la petite impulsion gentille, derrière, va y avoir un truc moins sympa. Et donc en fait, ce n'est que du conditionnement de trouille qu'on induit aux chevaux. Il y a donc un mors dans la bouche, donc il y a quand même un morceau de métal dans la bouche d'un animal. Et ça paraît normal à tout le monde, parce que c'est l'équitation, mais réfléchissez-y. Ça leur fait mal en fait, si on s'en sert, c'est pour pouvoir leur faire mal, pour pouvoir les arrêter. Un petit peu comme les taureaux qui ont des anneaux dans le nez. Parce que vous ne pouvez pas rivaliser en force avec un taureau, que vous le manipulez. Pour aller inséminer, etc., comme c'est des animaux dangereux. Si vous voulez l'arrêter, vous avez cet anneau qui lui fait mal, et du coup, ça permet d'arrêter, quoi. En région parisienne, notamment, où l'immobilier coûte cher, il n'y a pas de pré. Donc en fait, les chevaux sont 24-24 dans un box de 3 mètres carrés, sauf l'heure où on monte dessus. Faites ça à un chien, vous allez en tôle, quoi. Grosso modo, on peut les monter jusqu'à une vingtaine d'années. Et encore, dans les centres équestres, ça sera plutôt 15 ans parce qu'ils sont tellement usés. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas les garder. Vous ne pouvez pas leur offrir de retraite. Sinon, en fait, les sous que vous avez fait en les exploitant, vous les perdez. Donc, ils s'en séparent ou ils les revendent à l'abattoir et ils rachètent des nouveaux chevaux pour le business, quoi.
Mais donc, les chevaux qu'on mange, c'est les chevaux qu'on monte ?
Bien sûr.
Et si on pense à un monde post-spéciste, je pense qu'en fait, on a vraiment une forme de communauté à retrouver avec ces animaux-là. Tous ces animaux d'élevage qui sont traumatisés, en fait.
Myriam Bahafou, philosophe et autrice.
Et reste à nous, en fait, maintenant, de créer ces espaces où ce sera possible. Il y aurait une voie proposée par les espaces comme des sanctuaires, par exemple, dont on connaît très très peu la réalité aujourd'hui, alors que pourtant, il y aurait énormément à en dire, où, en fait, on retrouve une forme de vie commune avec les animaux.
On entend des cloches, là. Il faut dire que ce ne sont pas les tiennes, toi.
Ce n'est pas les nôtres, ouais. Non, non. Non, jamais de cloche aux vaches. En fait, historiquement, les cloches aux vaches servaient à retrouver des individus égarés dans les alpages. Et en fait, c'est devenu après un symbole culturel, mais qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. À part dans les alpages, pourquoi pas mettre une mini cloche? Mais d'avoir une très grosse cloche, c'est surtout un synonyme de prestige, en fait. Enfin, c'est culturellement très ancré, mais ça n'a plus aucune fonction, à part fondamentalement emmerder les vaches et les rendre à moitié sourdes. Ça, c'est une réalité, et ce serait super que ça n'existe plus, mais c'est pas un combat prioritaire pour moi, mais c'est clair qu'en tout cas, chez moi, il n'y a pas de cloche, ça c'est sûr.
Virginia Marcus, fondatrice de l'association et du sanctuaire Coexister.
Et on est au sanctuaire de l'association Coexister qui accueille des animaux dits de rente, qui ont échappé à l'abattoir, au laboratoire aussi. Et c'est des animaux qui ont un accès extérieur en continu, c'est-à-dire même en hiver, même quand il fait froid, ils ont toujours une zone d'accès extérieur, ce qui diffère des élevages. Parce que dans les élevages, on est à la période estivale, printanière, durant laquelle il y a des vaches et des moutons qui sortent au pré. Donc on a l'impression que l'élevage est assez idyllique quand on voit que cette facette-là de la réalité des animaux. Et en fait, tout le reste de l'année, il y en a qui sont à l'attache, attachés à une chaîne, notamment les bovins laitiers. Et il y a des animaux qui ne verront pas la lumière du jour, en fait, pendant des mois et des mois. Donc c'est ce qui diffère, juste en termes d'infrastructure, je dirais, des parcs et des pâturages, mais aussi, évidemment, leur sort. Parce qu'ici, vous allez voir des animaux qui ont un certain âge, ce qui n'arrive pas dans les élevages, parce qu'ici, on a des animaux qui vont atteindre un âge très avancé, comme les cochons nains, il y en a une qui a 19 ans, par exemple, alors qu'à l'abattoir, les cochons, ils partent en général à l'âge de 6 mois. Le but du sanctuaire, c'est de montrer qu'on peut sortir du rapport d'exploitation et de domination, cohabiter avec, dans le respect de leurs besoins, et pas seulement accueillir des animaux dans le but qu'ils produisent quelque chose et qu'ils soient rentables. Mais en fait, les animaux, ils ont le droit d'être là juste parce qu'ils sont. Par contre, vous aurez un peu de boue sur vous. Hein. Ça va, canard ? Ça va m'embêter ? Ça gratte.
Et ce qui me frappe en le voyant, c'est qu'il a... Donc déjà, il est effectivement dehors et il broute, ce que j'avais jamais vu avant. Et par ailleurs, à l'oreille, il a un trou, en fait, ouais, maintenant, qui laisse passer la lumière.
En fait, les animaux dits de rente, que ce soit les cochons, les bovins, les moutons, les chèvres, on doit obligatoirement les identifier avec une marque auriculaire. Donc on leur met un numéro à l'oreille, pour la traçabilité de la viande, notamment. Hein. Mais c'est aussi symboliquement, évidemment, le fait qu'on les considère comme des animaux. Ils ont un numéro attitré. Et en fait, ici au cochon, j'ai eu le droit de leur enlever parce qu'ils sont pucés à la place. Et en fait, pour moi, c'était important de leur enlever cette marque parce que ici, comme je le disais tout à l'heure, ils redeviennent quelqu'un. Mais le trou se refermera jamais parce qu'en fait, ils le font dès le premier jour de vie. Donc en fait, la chair a été mutilée, ça reviendra pas. Et elle était truie reproductrice dans un laboratoire. Elle a été exploitée comme ça pendant 2 ans et demi. Donc elle a été inséminée en continu et elle a donné naissance à des porcelets à chaque fois qui lui ont été retirés et qui ont été utilisés comme sujet d'expérience. Et donc à 2 ans et demi, elle était déjà considérée comme trop vieille et trop faible pour porter. Donc elle aurait dû partir à l'abattoir. Les cochons, en fait, sont extrêmement proches de nous sur le plan génétique. Et donc, ils sont expérimentés pour les problèmes dermatologiques, les problèmes oculaires, les problèmes cardiaques, et très souvent pour tout ce qui est des maladies liées à la sédentarité. Cholestérol, diabète, thyroïde, pression artérielle, obésité, ce genre de choses. Et en fait, ces animaux sont placés artificiellement dans certaines pathologies. On va provoquer ces pathologies chez eux pour voir comment on peut trouver des remèdes pour soigner ça. Et il y a aussi des tests psychologiques qui sont faits sur eux, parce qu'ils sont aussi très proches de nous dans leur fonctionnement social. Vous pouvez rentrer, hein. Comme ça, je vous montre comment est-ce qu'ils vivent. Ça va, Guilla ? Ça va, ma belle ? Donc là, c'est l'endroit où ils dorment. Donc dès qu'ils ont fini de manger, le soir, ils viennent là, ils dorment. Quand ils veulent se mettre à l'ombre, ils peuvent venir là. Malheureusement, qui sont tellement victimes de sélection génétique intensive, qui vivent beaucoup, beaucoup moins longtemps qu'un cochon nain, par exemple, ou qu'un sanglier, qui peuvent vivre 20 ans, comme je disais tout à l'heure. Et ces races-là, qu'on appelle les grands blancs, les white large, malheureusement, ils ont une espérance de vie qui dépasse rarement 10 ans. Je dis en sanctuaire, hein, parce qu'en élevage, les truies reproductrices, c'est maximum 3 ans. Et en fait, pourquoi est-ce que même en sanctuaire, c'est des animaux qui ne peuvent pas vivre très très longtemps? C'est parce que bah, vous voyez leur taille et leur poids. C'est des animaux qui font jusqu'à 400 kilos des fois. Et en fait, leurs articulations sur leurs petites pattes morflent beaucoup. Parce qu'ils sont trop grands, trop lourds. Ils ne sont pas censés vivre vieux, en fait. Hein. Donc tant qu'elle arrive à très très bien vivre quand même et à être heureuse et à bouger, bah, c'est super. Mais dans tous les sanctuaires qui accueillent cette race-là, on le sait. C'est des animaux, à un moment donné, qu'on doit décider d'euthanasier parce qu'ils n'arrivent plus à se lever, en fait. Donc, c'est une réalité qui est difficile, mais qui est celle-ci.
On va remonter par là. Ça va, Alan ?
Je pense que pour le bien des animaux, il faudrait arrêter de reproduire les races qui sont problématiques pour leur santé, comme les poulets d'engraissement, comme les dindons d'engraissement, comme les vaches Holstein qui sont productrices de lait, comme les grands porcs blancs qui sont les cochons qu'on a vus tout à l'heure qui servent aux expérimentations animales mais aussi à la viande, parce que c'est des animaux qui de toute façon ont une espérance de vie limitée et qui vont de toute façon souffrir dans leur corps à un moment donné. Même beaucoup. Et oui, la fin de l'exploitation animale induira forcément la fin de la reproduction de certaines races, mais tant mieux. Tant mieux. Cet argument de dire oui, mais dans ce cas-là, il n'y aura plus de vaches dans les prés, pas du tout. Il y aura des vaches plus rustiques qui survivent mieux, il y aura des chèvres plus rustiques, des poules plus rustiques, et puis moins d'individus. Beaucoup, beaucoup moins par espèce, par respect pour l'écosystème, en fait. Ça n'a aucun sens de garder des poulets d'engraissement qui sont 18 000 dans un hangar, soi-disant parce qu'il faut perpétuer encore la race, quoi. Ça n'a aucun sens. Ces animaux ne voient même pas la lumière du jour. Donc autant garder des poules plus rustiques qui peuvent cohabiter, qui sont libres. Que des animaux qui sont mal formés juste pour la chair, quoi. Je dirais ça.
Souvent, ce qu'on nous dit, c'est quand on dit qu'on veut abolir l'élevage, c'est-à-dire l'élevage en tant que l'institution qui a servi justement les autres animaux pour en faire des biens de consommation.
Victor Durand-Lepeuch, auteur d'En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme.
On nous dit souvent deux choses. Tous les animaux vont disparaître, du coup on ne va plus avoir de relation avec les animaux. Soit ils vont proliférer et on sera débordé. Je pense qu'il faut remonter à la racine du problème, qui est ce problème, il vient justement de la domestication, de ce qu'on a infligé comme condition aux autres animaux d'être complètement dépendants de nous et de n'exister que pour nos intérêts à nous. Et donc là, c'est une vraie question difficile que ça nous pose de comment on pourrait faire autrement pour ces individus envers qui on a une responsabilité parce qu'on les a asservis et on les a mis en situation de dépendance. Quelle responsabilité ça nous donne pour le futur si on se débarrasse, si on abolit l'élevage? Et là, il y a un peu deux courants qui se distinguent au sein de l'antispécisme. Il y a un courant plutôt minoritaire qui est dit extinctionniste. C'est le courant défendu par Gary Francione, par exemple, un juriste, qui découle d'un pessimisme vis-à-vis de nos relations avec les autres animaux. Gary Francione, il dit « On n'arrivera jamais à sortir complètement d'une relation de domination très forte, même avec les meilleures intentions du monde. On ne va pas réussir à créer les conditions dans notre société pour vivre de façon égalitaire avec les autres animaux. Le mieux qu'on puisse faire, c'est laisser les espèces s'éteindre, c'est-à-dire pas tuer les individus, parce que c'est pas du tout ce que prône l'antispécisme. Au contraire, on prône de faire très attention à tous les intérêts des individus, et notamment l'intérêt à vivre. Mais quand on met fin à l'élevage, ben on arrête de les faire se reproduire. Et donc peut-être que l'intérêt à ne pas leur imposer des souffrances supplémentaires est plus important que leur intérêt à avoir une progéniture. Mais c'est des questions difficiles. Mais en tout cas, je pense que le courant extinctionniste est minoritaire au sein de l'antispécisme, parce que la plupart des antispécistes, ils ont plutôt envie de penser une société où on peut vivre avec les autres animaux et où on essaye. On n'a pas encore essayé, en fait, une société où on vive de façon réellement égalitaire avec d'autres animaux. Si on change radicalement la société, de créer les conditions, en fait, de prendre soin mutuellement les unes des autres, autres animaux compris, pas que au sein de notre espèce, en fait. Et il y a plein d'individus vulnérables chez les humains aussi. On ne se dit pas que parce qu'ils sont en situation de dépendance, on ne peut rien faire et du coup, il y aura forcément de la domination. Et donc, la réponse, c'est de se débarrasser de ces individus ou de ne pas essayer de créer ces relations-là. Ben non, ce n'est pas ce qu'on fait. En général, on essaie de lutter pour que les conditions soient meilleures, que la domination soit dénoncée là où elle est et à faire mieux, en fait. Et donc, cet autre projet de vie collective et égalitaire avec les autres animaux, c'est ce qu'on appelle la zoopolis. Depuis l'ouvrage canonique dans le début des années 2010 de Sue Donaldson et Will Kimlicka, qui ont marqué vraiment un tournant politique au sein des études animales, qui est plutôt un projet de société avec les autres animaux et sous des modèles égalitaires. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande de construire beaucoup de choses, mais il y a plein de directions dans lesquelles pointe Zoopolis avec beaucoup de pertinence.
And insofar, it often took the form of the future.
Will Kimnica.
Jusqu'ici, les études animales avaient tendance à présenter un avenir dans lequel il y aurait les humains qui vivraient d'un côté et de l'autre les animaux, et qu'il n'y aurait plus aucune interaction entre les deux. Ce qui nous a interpellés dans cette théorie, c'est que ce n'est ni un avenir réaliste, ni un avenir désirable. Je crois en effet qu'il y a des cas où les animaux veulent vivre de leur côté. Il y a effectivement des espèces qui sont réellement sauvages, qui fuient la présence humaine car elle leur fait du tort. Celles-là, il faut les laisser le plus possible tranquilles. Mais il y a aussi beaucoup d'autres animaux qui vivent parmi nous et avec lesquels nous avons besoin d'apprendre à interagir de manière pacifique et juste. Je parle des animaux domestiques qu'on a fait entrer dans nos sociétés. Ce sont bien sûr les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, les animaux de laboratoire, mais pas seulement. Je pense aussi aux animaux liminaires, ces animaux qui ne sont pas domestiqués mais qui vivent parmi nous, dans nos jardins, dans nos quartiers, et avec lesquels nous devons apprendre à partager l'espace. Par exemple, là où je vis, au Canada, nous avons des oies, des ratons laveurs, des écureuils, des pigeons, des souris. La plupart de ces animaux ont migré vers les zones urbaines, en grande partie parce que leurs habitats historiques ont été accaparés par les humains. Donc la véritable question, c'est comment faire en sorte d'établir de nouvelles normes, justes, équitables, et qui donnent autant d'importance à l'intérêt des animaux qu'à ceux des humains. Nous suggérons de partir de l'idée que c'est leur société autant que la nôtre. Ils ont aidé à construire la société avec leur force de travail, avec leur sang. Donc maintenant, nous devons nous demander quel espace public, quelles pratiques, quelles institutions, quelles lois sont compatibles avec cette vision du monde. Et c'est bien sûr un très très grand défi.
En ville, on s'est accaparé tout l'espace, en fait. Il n'y a plus de place pour les animaux.
Amandine Saint-Vicence.
Et en fait, on est encore au stade aujourd'hui que les élus municipaux, pensent qu'ils peuvent choisir quelle espèce animale est légitime ou non à vivre en ville. On a aussi des mairies, c'est très à la mode, qui disent qu'il faut végétaliser la ville. Et en fait, on essaie de leur expliquer que qui dit végétalisation dit espèce animale et qu'ils ne vont pas pouvoir choisir quelles sont les espèces animales qui vont venir, qui vont peut-être se reproduire plus, etc. On se rend compte qu'il y a vraiment une classification des espèces animales, celles qui sont mignonnes, qui ne nous dérangent pas trop, qui, pour des raisons culturelles ou scientifiques, on va les considérer comme utiles, et donc c'est bien qu'elles soient là. Par exemple, en Angleterre, les écureuils peuvent être dans les villes, peuvent être considérés comme nuisibles ou peuvent vraiment déranger. Alors que je pense peut-être qu'ici, si on en parle, certains trouveraient que c'est mignon qu'il y en ait en France. En Inde, par exemple, il y a des religions qui vraiment adorent et vénèrent même les rats, en fait, notamment au temple à Deshnok, où ils sont vraiment nourris, enfin, où on boit le même lait qu'ils boivent, enfin, des choses qui nous paraîtraient totalement hallucinantes en France, en fait. Je sais qu'en Afrique, il y a des pays qui vont considérer qu'il y a trop d'éléphants. Mais nous, on reconnaît volontiers qu'il y a des animaux qui peuvent déranger à un moment donné. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? Voilà. Est-ce que, sans se poser aucune question, on les tue? Ou est-ce qu'on va essayer de trouver d'autres solutions, en fait? Nous, c'est vraiment ce débat-là qu'on veut mettre sur la table.
Les animaux luttent. Ils luttent contre ce sort que les humains leur réservent. À chaque coup de corne, de sabot, de bec, à chaque griffure, morsure, piqûre, à chaque rugissement, bêlement, bourdonnement, les taureaux, les chevaux, les mulets, les pigeons, les aigles, les poulpes, les chats, les chiens, les araignées, les guêpes, les lions, les hyènes, les moutons cherchent à se séparer de nous, ou du moins à nous éloigner d'eux. Et les animaux, chaque jour de leur vie, quittent leur réserve. Les animaux attaquent. De toute leur force, ils blessent la main qui capture, ils mordent le corps qui chasse, ils tuent le tueur, les animaux fuient. À travers les mers, les champs, les airs et les rues, ils s'aiment, échappent et s'efforcent de conserver tout ce qu'ils possèdent, cette seule vie que l'on veut leur prendre. Et les animaux, toutes les fois où ils le peuvent, négocient, composent. Ils se laissent observer, approcher, toucher, faire. Ils donnent d'eux-mêmes, de leur lait et de leur laine, ils donnent leur force, ils obéissent. et travaille. Puis vient cet instant fatal et décisif où les animaux cessent. Les animaux freinent, ralentissent, les animaux s'interrompent. Ainsi font les animaux. Kautar Archi, Ainsi l'animal et nous, 2024.
L'idée que les animaux sont des sans-voix, il y a tout un pan de la recherche sur la question ces dernières années qui montre justement que non, les animaux ne sont pas des sans-voix.
Émilie Dardenne, autrice de Considérer les animaux.
Les autres animaux font aussi des choix, se comportent aussi de façon à agir sur leur environnement et que même ils peuvent résister à l'emprise humaine.
Finalement, même quand on met les bons mots sur leur situation, c'est-à-dire les mots d'exploitation, d'appropriation, on peut risquer de revéhiculer une autre façon d'invisibiliser ce qu'ils font, c'est-à-dire leur agentivité.
Victor Durand-Lepeuch.
Les animaux, ils ne font pas que subir leurs conditions, ils y résistent. Ils sont actifs, en fait, pour essayer de la fuir. Et il y a vraiment mille et un exemples d'animaux qu'on opprime, qu'on essaye d'enfermer, de mutiler, de mettre à mort, et qui tentent du mieux qu'ils peuvent, et avec toutes les ressources dont ils disposent, de nous échapper. Et je pense que c'est vraiment un paradigme hyper fort. On a besoin de l'oublier, de pas trop en parler de ça, parce que ça soulève tout de suite la question, si les animaux y résistent, pourquoi est-ce qu'on continue de les enfermer? Pourquoi est-ce qu'on continue d'essayer de les dominer si eux n'en ont pas envie? Et il y a vraiment quelque chose de très révélateur de cette résistance animale, c'est-à-dire que les méthodes très matérielles, concrètes même, qu'on met en place pour opprimer les autres animaux, sont le révélateur paradoxal de leur résistance. C'est-à-dire que si les animaux ne fuyaient pas, ne résistaient pas, pourquoi les cages? Pourquoi les barbelés? Pourquoi les filets de pêche? Pourquoi les muselières? En fait, pourquoi tous ces instruments de contrainte, de maîtrise physique, corporelle? Pourquoi tous les instruments de torture qu'on déploie dans le système de l'élevage? Pourquoi dans les abattoirs, tout a besoin d'être absolument maîtrisé? C'est que si les animaux, quand ils ont le choix, ils veulent pas aller là, ils veulent pas être mis à mort et ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper.
Donc il y a un exemple très connu de résistance animale qui est celui donc de l'éléphant taïk.
Amandine qui,
en 1994, donc c'était à Honolulu, donc qui était en pleine représentation dans un cirque et qui soudainement en fait a piétiné son dresseur et ensuite elle est sortie donc du chapiteau sans du tout toucher aux spectateurs pour s'évader quoi, c'est une évasion. Et elle a été donc pourchassée par la police locale et donc qui lui ont tiré des dizaines de balles en fait jusqu'à qu'elle meure en fait. Donc les exemples de résistance animale qui sont vraiment les plus visibles, c'est souvent ceux liés à la captivité animale. Donc par exemple, on peut penser à la tigresse Mevi qui s'est évadée du cirque Moreno Borman en plein Paris et qui pendant quelques minutes était vraiment libre, hein, en fait, sur un boulevard, et qui a été d'ailleurs abattue par son dresseur.
La tigresse est sortie, et cette porte était ouverte. Elle a traversé la route, un fauve, pour l'anesthésier, il faut appeler le vétérinaire. Le temps que l'anesthésie se passe, il va falloir peut-être 30 minutes en fonction du poids. Donc il faut prendre vite une décision rapide, et ça fait partie du protocole de sécurité, il faut abattre l'animal. Et j'ai abattu l'animal pour la sécurité du public.
Mais on peut penser par exemple aussi au taureau Ferdinand qui s'est évadé d'un abattoir en Ile-de-France et qui a pendant plusieurs heures été libre, qui a couru, etc. et qui a été pourchassé par la police et qui a été aussi tué.
Une course taurine improvisée. Ce jeune veau, échappé des abattoirs, trouve refuge sur ce parking en chantier près de l'aéroport de Perpignan. Tant bien que mal, les hommes de la Société catalane d'abattage, aidés par les pompiers, tentent de le maîtriser. En vain.
Bon, ben on va charger,
je,
bon, voilà.
Je vais la...
la plate, tu mets l'autre.
Voilà.
Et puis tu armes et puis on est prêt.
Ça va.
5 doses auront été nécessaires pour affaiblir la bête, de près de 400 kilos tout de même. Mais c'est un matador, à savoir une décharge électrique, qui l'a définitivement assommé. Le veau a été reconduit aux abattoirs. Son échappée belle n'aura duré que quelques heures.
On ne va jamais dire que c'est une évasion. C'est un porc saute d'une bétaillère pour essayer de s'enfuir. On va dire « Ah ben il est tombé !» Ou on ne va pas en parler de toute façon. Il y avait une vache qui avait essayé de s'enfuir, qui fuyait désespérément et qui a été criblée de balles par la police. Mais on arrive encore à nous dire « C'est une vache perdue !» Alors que non, c'est une vache qui a tenté de s'échapper. Et qui tenait à la vie et qui a tout fait pour se sauver, en fait.
Mais pour commencer, cette histoire insolite qui s'est déroulée la nuit dernière, ici même, à Boulogne-sur-Mer.
Marguerite a vécu une nuit étrange dans les rues boulonnaises. Cette vache laitière d'à peine 2 ans a fait une escapade de quelques kilomètres en ville, mettant en alerte vers 2h du matin la police et le service Opal Capture. L'éleveur basé à Saint-Martin-Boulogne a récupéré la fugueuse en début d'après-midi. Un défaut de clôture serait à l'origine de la fuite de Marguerite qui a retrouvé depuis son enclos naturel.
Fin de la cavale pour ce petit cochon fugueur. Depuis le 2 août, l'animal narguait tous ses poursuivants. Mais ce matin à Tulle, il a finalement été attrapé sur les berges de la Bresse où il avait trouvé refuge. Ce sont des pommes habilement placées dans une cage qui ont eu raison de son appétit pour la liberté.
Ce qui est très intéressant, en fait, c'est la façon aussi dont sont traités ces actes de résistance animale, par exemple à travers la presse. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que d'un côté, ça va être très marginalisé, individualisé. Donc, ça va être un cas, cette vache précisément, ce taureau-là, qui ne voulait pas être tué. Et en fait, on va le rendre exceptionnel. Et donc, en effet, la société met tout en œuvre pour qu'on se rassure en se disant « mais en fait, c'est juste cet animal-là ». Et les autres, finalement, ils sont volontaires pour être tués. Et puis ensuite, évidemment, dans le vocabulaire qui est utilisé, souvent, on le retrouve dans les rubriques insolites, dans les rubriques « elle a fait une petite fugue », donc tout ce qui est infantilisation des animaux. On refuse de voir en face et de prendre au sérieux ces actes-là, parce que ça nous donnerait à penser de réinterroger nos actes.
Pourquoi la vache a bondi ? Et pourquoi le veau l'a suivi ? La question nous chiffonne. Alors il n'y a pas de question. Et pourquoi la vache n'entend pas cet amour que l'on peut mettre dans une remorque pour le vendre un beau jour, puis rentrer au village, puis saluer le vieux clocher et fouler le gravier ? La question fait de même. Alors il n'y a pas de question. L'humanité s'est planté un drapeau à 13 bandes sur la Lune, réparé une valve cardiaque et dansé dans les rues pour l'égalité enfin recouvrée. Elle peut tant, l'humanité, mais ce pourquoi-là, non. Car tout s'écroulerait, notre ordre, nos lois, nos grands mots. Paf, château de cartes. Alors la bête court, alors les flics courent pour que tout ne s'écroule pas. L'ordre, les lois et les grands mots. Joseph Andras, Ainsi nous leur faisons la guerre, 2021.
Mais alors pour moi, le monde après le spécisme, ce ne serait pas un monde où on aurait une sorte de meilleure gestion du bien-être animal, bien que bien sûr ça en fasse partie, et que bien sûr un monde après le spécisme, c'est en premier lieu un monde où l'exploitation animale, comme on la connaît aujourd'hui, serait effondrée. En fait, moi, ma question, ce n'est pas simplement comment mieux protéger les animaux, mais comment en fait l'animalité peut retrouver une place dans nos manières de faire monde, et avec elle, en fait, les animaux autres qu'humains. Et à ce titre, un de mes buts, en fait, c'est de réintroduire la dimension animale, en fait, dans nos luttes politiques, que ce soit le féminisme, que ce soit l'antiracisme. Donc un monde après le spécisme, pour moi, ce serait un monde où, en fait, il n'y aurait plus aucune honte. Et même, au contraire, en fait, on pourrait célébrer une forme d'appartenance à un ordre animal comme un enjeu politique, en fait. La conséquence de ça serait que, en fait, la division entre l'humain et l'animal serait plus du tout pertinente. Ça serait ça, en fait, un monde après le spécisme. Ce serait un monde où la construction coloniale, patriarcale, capacitiste entre l'humain et l'animal ne soit plus opérante dans nos manières de vivre ensemble. Et c'est à ça, en fait, que j'appelle quand je parle d'un monde après le spécisme. C'est-à-dire que le spécisme, c'est pas juste un rapport au monde de manière abstraite, comme ça. Le spécisme, c'est un ensemble d'institutions, de dispositifs. C'est un arrangement spécifique du capitalisme néolibéral dans lequel on est aujourd'hui et qu'il faut absolument combattre. Mais d'un côté, il ne faudrait pas non plus méprendre et en fait retourner dans une forme de protection des animaux, comme si en fait on était complètement à l'extérieur de cette animalité. Mais il ne faudrait pas non plus, l'autre écueil, se réapproprier à l'animalité comme un enjeu purement symbolique, en fait. Et à côté de ça, en fait, continuer des modes de vie qui sont carnivores, qui sont de l'exploitation animale, etc.
Ce qui m'est arrivé cette nuit-là, et qui sur l'instant m'a émue jusqu'aux larmes, c'était à la fois comme une pensée et comme une preuve. C'était la pensée qu'il n'y avait pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. Le chevreuil était dans sa nuit et moi dans la mienne, et nous y étions seuls l'un et l'autre. Mais dans l'intervalle de cette poursuite, ce que j'avais touché, justement, j'en suis sûre, c'était cette autre nuit. Cette nuit sienne venue à moi, non pas versée, mais accordée un instant. Cet instant, donc, qui donnait sur un autre monde. Une vision. Rien qu'une vision. Jean-Christophe Bailly, Le versant animal, 2007.
The idea behind this category is that
concernant les animaux sauvages, nous devrions nous considérer comme des étrangers sur leur territoire, dans le milieu qu'ils habitent, et peut-être dans le meilleur des cas, comme des invités.
In their lands and habitats. So we could ask, do they want us as
mais nous devons alors toujours nous demander, sommes-nous des invités désirables? Pour moi, chaque interaction avec eux doit avoir pour objectif de respecter et de restaurer leur autonomie, et non pas de chercher à les gérer, à les administrer, à les assimiler ou à les dresser.
Let alone to assimilate them or to domesticate them or to tame them or to train them. The goal is to think.
L'objectif, c'est de les considérer comme des communautés autogouvernées, avec des droits propres sur leur territoire. Bien sûr, il y aura aussi des moments ou des espaces où certains animaux, notamment les animaux domestiques, chercheront des interactions avec nous. Cette socialisation interespèces peut être une source de joie, d'enrichissement mutuel, d'apprentissage aussi. Mais dans d'autres cas, nous devons réfréner notre envie d'être avec eux. Nous devons être constamment à l'affût de la possibilité qu'ils souhaitent se retirer de nous. Et je pense que c'est un équilibre très difficile à trouver et qu'il va nous falloir du temps.
Quand je parle de communautés interespèces, en fait, déjà, je parle d'une réalité quasiment écosystémique d'une certaine manière. On forme des communautés interespèces, qu'on le veuille ou non, même à l'intérieur de nos corps. Là, je me suis fait piquer par quelques moustiques, je suis dans la forêt. Je suis toujours en communauté avec d'autres espèces qui cohabitent, qui me fréquentent, qui me touchent, qui vivent à l'intérieur de moi, qui... Enfin, le corps, en fait, n'est pas du tout une frontière hermétique entre moi et les autres. Donc ça, ça serait déjà, à partir de là, pour moi, on peut penser la communauté de manière beaucoup plus fluide. Dans un deuxième temps, la communauté interespèce, ce que ça voudrait dire, c'est de reconnaître en fait les espèces avec lesquelles on vit déjà. Donc bien évidemment que ce n'est pas une utopie antispéciste où on retourne tous dans la forêt, je ne sais quoi, ou au contraire, on se coupe d'un rapport animal.
Alors, quand on vient dans cette réserve biologique intégrale, bien qu'elle ne soit plus chassée, tu vois, là, on ne voit rien du tout. Je parle de la grande faune, hein, bien sûr, notamment des cerfs. Et tu te rends compte qu'il y en a tout autour de nous, mais on ne les voit pas, c'est des fantômes. Et ce sont des fantômes pourquoi? Parce que bien que cette réserve biologique intégrale soit la plus grande de France métropolitaine, fait 2300 hectares, c'est encore une surface trop petite pour couvrir les besoins en espace de ces animaux-là. Donc à un moment donné, ils sortent de ce territoire et ils sont chassés. Et donc il y a une peur de l'homme et de son fusil et de ses actions. Enfin, l'homme est assimilé à quelque chose de dangereux. Il y a une peur de l'homme qui fait qu'on a perdu complètement la proximité avec la grande faune sauvage. Et cette proximité, elle existait dans le passé. Parce que quand tu regardes les carnets de notes des naturalistes de l'époque préhistorique, tu vas dans la grotte Chauvet, par exemple, et bien dans la grotte Chauvet, tu as 14 espèces de grands mammifères qui sont représentées. Tu sors de ces gorges, tu vois un paysage magnifique, complètement vide. Tu te dis, mais ils sont passés où?
Chaque fois qu'on sort sur le seuil de sa maison, on devrait avoir un animal sauvage qui nous passe devant, un écureuil, une fouine, que sais-je. Donc voilà.
Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet, naturalistes.
On vit dans un paysage, mais les décors sont beaux, mais il manque les acteurs. Alors il y en a, mais soit ils n'y sont pas, soit ils y sont mais on ne les voit pas. Et donc il reste un tout petit effectif qui sont là et qui sont visibles. Ben, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Et les procédures de réintroduction, ça marche très très bien. Et une réintroduction, c'est quoi? C'est simplement redonner à l'animal sauvage une partie de son territoire.
La réserve biologique intégrale fait partie d'un domaine de 5000 hectares qui est de la forêt domaniale, donc qui appartient à l'État, c'est-à-dire à tout le monde, à vous, à moi, tous les citoyens. Donc la moitié nord, c'est là où on va aller, est en réserve biologique intégrale, c'est-à-dire qu'on ne l'exploite plus, on ne coupe plus de bois, on n'amène plus de pâturage non plus, plus de moutons, et on la laisse vivre sa vie librement. Les 2500 hectares qui sont au sud, eux, ont continué d'être exploités, chassés également. Et donc c'est très intéressant parce que c'est une même zone géographique et on peut comparer vraiment ce qui se passe sur chacun des deux secteurs. Voilà, bah écoute, là on arrive à une bifurcation, donc on va quitter le sentier de grande randonnée principale et on va prendre ce petit sentier qui s'enfonce au cœur de la réserve biologique intégrale. Tiens, regarde, on devine à travers la végétation, les végétaux sont un petit peu foulés. Là c'est un sentier, mais c'est plus un sentier d'humains, c'est un sentier d'animaux, on va le suivre. Et donc le sentier animal, eh bien, il est beaucoup plus étroit. On voit des herbes qui sont un petit peu écartées, mais ça reste quelque chose de très discret.
Mais ça veut dire que les animaux créent des chemins qu'ils empruntent les uns les autres en se suivant ?
Exactement. Les animaux ont leur propre sentier de circulation, qui recoupent parfois les nôtres, qui parfois suivent les nôtres aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pense que très probablement les premiers sentiers, les premières routes qui ont été créées par les hommes empruntaient des sentiers qui avaient été créés préalablement par les animaux et qui rendaient donc la circulation des humains plus facile aussi. Là, au fond du creux, tu vois, il y a une zone complètement dénudée. On voit la terre apparaître alors que tout le reste est bien herbeux, bien fleuri. C'est ce qu'on appelle une souille.
Nous sommes sur les hauts plateaux, dans une zone très rocheuse, où visiblement, il n'y a pas la place pour l'eau. Et c'est vrai qu'avant que le cerf n'arrive dans ce secteur-là, il était plus bas, dans des zones plus humides. Et on s'est dit, non, il ne viendra pas sur les hauts plateaux. Parce qu'on s'est dit, il n'a pas d'eau. Bon, le cerf, ça a dû se dire la même chose. Eh bien, ils sont malins. Avec leur bois, ils ont raclé le sol. Et ils ont fait en sorte qu'il y ait un petit film d'argile qui retienne un peu l'eau. Et puis ensuite, à force de se rouler dedans, ça fait une cuvette qui s'agrandit et ça devient des fois des piscines olympiques. Et quand on met des caméras pièges, on se rend compte qu'on a vu des gélinottes, des renards, des lièvres venir boire tranquillement.
Et dans une de ces souilles, on voit des jeunes louveteaux qui manifestement voient l'eau pour la première fois. Alors on en voit d'abord un, puis deux, puis trois, et puis six à la fin qui viennent. Et manifestement, la tanière n'est pas loin parce qu'ils sont en train de sortir et de découvrir le monde. Alors ce qui est très intéressant sur ces hauts plateaux du Vercors, et ce qui fait qu'on a pu supprimer la chasse, c'est que vous avez l'ensemble des habitants de cet écosystème, du grand prédateur, qui est le loup, jusqu'aux herbivores, en passant par les décomposeurs. Il y a maintenant des vautours, quatre espèces de vautours différentes qui peuvent vaquer dans ces endroits-là à certaines époques de l'année. La grande question là-dedans n'est pas de savoir, et l'homme dans tout ça, mais de savoir quelle est la place que l'homme laisse au reste du vivant. Deux chiffres pour donner un petit peu une idée de la situation au niveau mondial. Actuellement, il n'y a que 3% des terres émergées qui ne sont pas exploitées par l'être humain. 3% sur l'ensemble de la planète. Et bien sûr, ce sont des zones particulièrement hostiles et inhabitables. Les zones polaires, les grands déserts, etc. Et à côté de ça, si on considère la biomasse des mammifères terrestres, eh bien, 96% de cette biomasse, c'est l'homme et ses animaux domestiques. Dit autrement, tous les mammifères sauvages sur l'ensemble de la planète, ça ne représente plus que 4% de la biomasse. 4%. Et par contre, ce qui est intéressant quand même dans cette réserve biologique intégrale, des hauts plateaux du Vercors, c'est que quand tu viens en automne, contrairement à d'autres endroits, tu entends les cerfs bramer en plein jour. Ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Habituellement, tu les entends à la tombée de la nuit. Donc ils ont bien assimilé le fait que dans cet endroit-là, ils sont tranquilles, ils ne sont pas chassés. Et donc, ils peuvent se permettre de constituer leur harem et d'attirer les femelles en pleine journée. Alors que dans d'autres endroits, ils se cachent, ils attendent la nuit et l'absence de fusil.
C'est revenu et ça revient. Ça se met en boucle. Le discours se dérègle, il le fallait.
Nos sœurs et nos frères par le sang se taisent depuis toujours. Que serait le monde sans eux ?
Ciel sans oiseaux,
Mer et rivière sans poisson.
Terre sans tigre et sans loup.
Banquise fondue avec plus bas des hommes.
Et rien que des hommes. Est-ce qu'on peut seulement vouloir cela ? Jean-Christophe Bailly, Le versant animal, 2007.
Et donc en fait, c'est pour ça que j'invite à penser l'antispécisme comme une force quasiment insurrectionnelle, qui est un mot qu'on a complètement oublié, hein, où en fait le véganisme, lui, a été complètement, en tout cas très bien intégré par le capitalisme sous un régime végétal. Il n'y a plus rien d'insurrectionnel dans le fait d'aller consommer votre matcha à 8 euros. Et en fait, c'est justement en joignant les deux, en joignant la dimension justement tout à fait critique, anticapitaliste en fait, hein. Et de l'autre côté, en fait, en joignant une dimension beaucoup plus intime, que pour moi, on arrivera à quelque chose de l'ordre d'un monde post-spéciste, en fait. Et je crois, en fait, que là-dessus, on a encore beaucoup à construire ensemble et qu'on est encore assez à court d'idées, pour être tout à fait honnête. En tout cas, moi, j'œuvre encore dans l'urgence actuelle du spécisme. Mais je crois que c'est urgent et vraiment nécessaire de le penser pour justement nous montrer que ça n'incombe pas que aux véganes révolutionnaires ni aux philosophes universitaires, mais bien à toutes ces personnes entre les deux qui, en fait, ne savent pas trop quoi faire de leur rapport à, je sais pas, ça peut être des choses aussi simples que de mettre des pièges à souris chez soi, ou de se rendre dans la forêt et d'avoir peur par définition, ou de considérer que la vie des poissons elle a moins de valeur que la vie d'une vache. Enfin, vous voyez, c'est dans tous ces espaces-là, en fait, je crois qu'on arrive à refaire communauté avec les animaux, en fait. Il y a une forme de familiarité à retrouver.
Après le spécisme, en finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross. Avec Marjorie, Myriam Bahafou, Amandine Saint-Vicence, Virginia Marcus, Caroline Dubois, Will Kimlicka, Émilie Dardenne, Victor Durand-Lepeuch, Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet. Lecture, Mélissa Barbeau et Chiara Zalini. Prise de son, Romain Luquiens, Mileta Diawara et Fabien Gosset. Mixage, Claire Levasseur. Documentation musicale, Antoine Vuilloz. Documentation, Annie Signoret et Hervé Evano. Illustration, Anaïs Isbert. Collaboration, Iris Pessarossi. Merci à Madeleine Rubin, Vivien Demeyer, Maïwenn Guizhou et Iris Pessarossi. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'application Radio France.
J'en fais le serment devant vous, sciemment. Je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse.